Alors, maintenant, pour passer au film de façon plus concrète, j'ai préparé trois temps. Le premier, on va parler vraiment de la part de la fable qui est très importante dans le film, hein, comment se réapproprier son histoire à travers cette fable. Le deuxième, ça va être la part du réel. Finalement, c'est un dessin animé, mais c'est un dessin animé réaliste qui s'inspire d'une réalité et où les actes des personnages sont inspirés par des réalités. Donc, c'est l'histoire d'une héroïne plongée dans l'histoire avec un grand H. Et enfin, que les deux se rejoignent, d'une certaine façon, le réel et la fable, puisque le récit devient lui-même action. Et l'imaginaire apparaît comme une arme dans le film, peut-être la seule arme encore disponible pour Parvana et sa famille. Je vais vous montrer deux extraits pour commencer sur cette part de la fable, et on va analyser donc le début de Parvana. Alors, d'abord, la première chose qui saute aux yeux, si j'ose dire, dans ce début, c'est la différence entre les deux types d'images qui seront constantes et qui arriveront régulièrement, ces images de la fable racontée, de l'histoire qu'on raconte, qui est d'abord une histoire historique, légendaire du père, et qui va être peu à peu la fable que prendra en charge Parvana, qui va être la propre maîtresse de son récit. Alors, dès le début, en tout cas, on commence avec le père et la fille au marché. On les montre frontalement dans un univers qui est pour l'instant relativement absent, c'est-à-dire qu'on ne voit pas la ville autour et on découvre la ville autour qu'à partir du moment où on a les personnages des talibans qui apparaissent. Bon, en tout cas, vous avez ce plan extrêmement frontal où on a un espace du marché auquel on n'a pas accès, puisqu'on a juste ce mur beige. On a les deux personnages côte à côte symétriques, le père et la petite fille, donc la petite et le grand. Et on découvre d'abord un monde qui est comme éteint d'un point de vue des couleurs. Vous voyez que les seules couleurs intéressantes, enfin disons qui jaillissent de l'image, c'est les couleurs des fruits. Et ça sera constant dans tout le film. C'est-à-dire que dès que les personnages sortiront, c'est les fruits qui vont apporter de la couleur, les fruits et les tenues des femmes, quand il y a des femmes. Donc c'est intéressant, c'est comme si la couleur vive ne venait, était finalement soulignée par la présence des femmes ici. Donc au début, donc, vous voyez, on a des champs contre champs entre la ville, enfin disons le marché, et le marché cache en quelque sorte les ruines qu'on voit à peine. Opposé à ces couleurs vives que sont celles de Parvana, ses yeux, son voile, évidemment ses fleurs et son blouson, enfin sa veste, sa jolie veste. Évidemment, ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est la couleur rouge qui ouvre et qui ferme le film et qui va contraster avec les couleurs globalement ici. Pour le conte historique, vous voyez d'abord qu'on commence par quelque chose, voilà, avec presque la géométrie, les cercles, etc. On entre dans des images qui sont extrêmement simplifiées, presque des dessins d'enfants avec ce côté papier découpé, où il n'y a pas de troisième dimension. Donc volontairement, dans un récit dans le récit qui est absolument simplifié et dans la parole et dans les images, et on voit comment les visages des différents conquérants finalement alternent, l'un remplace l'autre, et finalement ces différents conquérants vont être remplacés par les talibans dans la même scène, puisque le visage d'Idriss va remplacer presque de la même façon le réel autour. Alors, vous voyez qu'il y a une composition ici extrêmement, encore une fois, enfantine. La 2D, le jeu sur une animation qui est beaucoup plus limitée, mais volontairement, et qui amène à être encore plus limitée quand on voit voilà, le feu, les enfants qui courent, qui ne sont plus que des ombres chinoises, et les femmes qui sont ici doublement en prison, puisqu'on voit bien qu'elles sont derrière des barreaux, puis derrière des barreaux. Donc voilà la position. Le retour au réel se fait par le diamant. Alors c'est pas inintéressant, enfin évidemment peut-être le faux diamant, puisque le diamant prendra dans la fable de Parvana un sens intéressant. C'est le diamant qu'elle va trouver au fond du puits. Donc les éléments de la fable vont être des échos déformés de la réalité des personnages. Voilà. Alors on voit qu'elle commence à raconter son histoire. C'est assez intéressant cette image parce qu'elle fait écho directement à la fin du film. Si vous vous souvenez de la dernière image, c'est cette espèce de champ rouge de fleurs qui est une sorte d'appel à la paix. Et donc on a cette image qui est à la fois abstraite et concrète, puisqu'on quand même on reconnaît quelque chose de l'ordre de la flore, qui reprend directement finalement le chapeau, la couronne de fleurs ici. Voilà. L'arrivée des talibans crée une vraie rupture dans la scène, dans une forme d'unité qui est bercée par la voix très douce du père, par les marchés qui recouvrent les ruines. Et à partir du moment où les talibans sont là, vous voyez que d'abord, ils sont à contre-jour. Donc, il y a un effet déjà négatif du point de vue de l'image. On ne les voit pas aussi bien. Puis en plus, ils sont ce qu'on appelle en contre-plongée. On est à la place de Parvana et de son père et on la regarde avec elle et avec lui. Donc, on est déjà dans un déséquilibre. Alors que tout était frontal, symétrique, ici, une dissymétrie arrive avec les talibans. Et vous voyez que le contre-champ est très dur aussi, puisque père et fils qui étaient en pleine lumière sont plongés dans l'ombre. Il y a l'ombre des talibans sur eux. Bon, donc, il y a un effet ici visuel qui est extrêmement simple, mais efficace, qui permet d'opposer ces personnages. Et voilà. Et vous voyez que quand ils se lèvent, tout à coup, on voit bien autour, le marché prend plus qu'une petite place, et on a cette montagne, et on a surtout toutes les ruines derrière, et qu'on avait juste deviné jusqu'à présent. Donc il y a vraiment ici un travail sur placer les personnages dans le décor. Voilà, là on voit les ruines qui étaient en fait juste derrière, et qui révèlent progressivement quelque chose, comme si l'amour avec le père, l'amour du père, le récit, protégeait la petite fille dans un univers idéalisé, alors que les talibans la ramènent violemment dans l'ombre, font peser violemment leur ombre sur eux et la ramènent violemment dans le réel. Donc, dispute avec Idriss. J'espère que si vous recroisez vos élèves un jour, ils seront plus sympas que ça. En tout cas, ici, donc, on a des plans sur Kaboul qui vont, qui vont rythmer le film et qui vont être aussi les moments où elle peut sortir, elle ne peut pas sortir. Et ça va être très intéressant de voir comment cette petite fille, d'abord enfermée chez elle, va gagner la ville et va faire partie de la ville. Voilà. Alors, en écho à cet extrait, je voulais vous montrer un extrait d'un film que vous connaissez sans doute, qui s'appelle Persepolis, de Marjane Satrapi. Et je vais juste remettre le son. Alors voilà, je voulais laisser comme ça, on voit un tout petit peu d'autres types d'images à l'œuvre dans le film. Donc quand même, je vous rappelle deux informations qui sont importantes pour comprendre la différence entre les films. C'est un récit autobiographique, ou en tout cas inspiré par la vie de Marjane Satrapi, et qui est adapté de sa propre bande dessinée. Donc il y a une double valeur intéressante de ces points de vue-là. Et vous voyez que dès le début du film, puisque ça se situe vraiment très près du début, toute cette séquence, on a tous les types d'images qui vont être utilisées dans le film. Donc les images de la guerre, qui sont des images comme ça, très abstraites, avec des jeux d'ombre et des formes géométriques, avec les tanks, etc. C'est les scènes qu'on verra, la révolte, la mort, comme ça, des gens en silhouette, en sorte d'ombre chinoise. Et on a surtout, on a le réel de la petite fille qui va être comme ça avec des fonds relativement sobres. Ça, c'est un choix aussi intéressant de dessin, c'est-à-dire comme il y a énormément de dialogues dans le film, c'était le cas d'ailleurs dans la bande dessinée, Marjane Satrapi a choisi de faire des fonds qui sont extrêmement simples, lisibles, parce qu'évidemment, plus il y a de dialogue, plus ça demande notre attention. Donc, s'il y a trop d'attention aussi demandée visuellement, ça fait une sorte ça fait un film compliqué à voir, tout simplement, ou une bande dessinée compliquée à lire. Immédiatement, vous voyez que là aussi, le récit du père, c'est encore un récit du père, est fait en 2D. Donc, on a d'ailleurs quasiment le même arbre au même coin ici. Bon, je pense que la réalisatrice de Parvana a vu Persepolis et s'est dit que c'était un des procédés qui était intéressant de rentrer dans une histoire de façon très simplifiée. On entre ici dans un univers qui est très inspiré du conte des Mille et une Nuits, presque la lobe d'Aladin, les étoiles, etc. Et on a des personnages qui sont dont on ne cache pas le ridicule et on ne cache pas le côté simplifié visuellement. Au contraire, on le montre d'autant plus. Donc on voit que le Britannique est une sorte de zébulon, une marionnette. Et donc on comprend, rien que par cette métaphore, que tous ces personnages sont manipulés et qu'il y a des fils qui tirent au-dessus, politique, etc. Donc c'est une façon très simple de raconter finalement une histoire politique dont on ne voit que les marionnettes. Et On voyait que elle utilise dans les deux films, il y a le même procédé d'un personnage qui est remplacé par un autre, d'un conquérant remplacé par un autre, d'un roi remplacé, d'un char remplacé par un autre, le père et le fils. Et on voit que le fils est encore plus maladroit, on pourrait dire encore plus mal animé d'une certaine façon. Et évidemment, cette mauvaise animation trahit ses aspirations qui sont elles aussi douteuses. Alors, on a en plus dans toute cette histoire le rideau hein, qui ouvre et qui ferme et qui théâtralise beaucoup pour distancier de cette histoire racontée à une enfant, l'histoire qu'un grand H racontait à une enfant et qui ici donc prend une valeur, disons, démonstrative, symbolique, plus que réaliste. Et puis évidemment, une valeur aussi de dénonciation. Alors, donc la part de la fable. Donc les registres d'images sur lesquels je vais insister, là je vous ai mis quatre images donc, du récit réaliste, appelons ça, de Parvana. Il faut savoir que 70 000 dessins ont été réalisés, permettant chaque jour la création, chaque semaine, pardon, de 6 à 7 secondes seulement. Un film d'animation, c'est très très lent à faire, et en particulier ce qui est lent, c'est la production. C'est un film qui est dessiné à la main, mais sur tablette graphique. Donc c'est un dessin qui est numérique. Mais la réalisatrice tenait à ce que ce ne soit pas l'ordinateur qui se charge des dessins une fois qu'on lui a ingéré les personnages, par exemple les décors, mais que ce soit vraiment chaque dessin animé par des animateurs. Le récit principal se caractérise par un style dépouillé, un traitement simplifié des visages. Vous voyez que c'est les yeux, évidemment, qui sont très expressifs dans le film et qui prennent toute la place et visuellement. Et il y a une vraie recherche de vérité dans les décors qui ont été constitués à partir de photographies, d'entretiens, de témoignages. Et les arrière-plans du film ont une palette avec des couleurs pastel, comme vous le voyez ici sur les trois images en bas, ce ciel un peu bleu, le mur évidemment ocre, ou à la fin dans la montagne également, beaucoup plus orangé, mais quand même, il y a quelque chose de, voilà, encore une fois, comme j'ai tout à l'heure, d'éteint dans ces fonds, qui semble dire, bah, il y a quelque chose qui manque, bah, ce sont les femmes qui manquent. Les registres d'images de la légende de Solimon, qui sont des scènes qui ont été confiées à un réalisateur, mais évidemment qui a été dirigé par Tommy, qui résonnent avec évidemment l'interdit de la représentation la loi des talibans, donc c'est une représentation qui va être simplifiée ici, mais on représente quand même. C'est une esthétique qui tient de la tapisserie traditionnelle persane, et il y a une volonté d'imiter le papier découpé. Et encore une fois, comme c'est quand même fait par dessin graphique, c'est vrai, c'est vraiment une imitation, c'est pas fait sur papier découpé. Et cette partie-là, enfin ces parties, puisqu'en réalité il y a plusieurs mini-récits, sont faits dans un studio canadien, puisque le film est une coproduction entre l'Irlande et le Canada.